quand il attrapait 25 ou 30 ans, lui, et qu'il ne voulait pas lâcher, eux, les deux, rien, chacun à sa manière. Il ne voulait pas comprendre ce qui pouvait être changé, amélioré, pour mieux vivre. Il résistait, les portes claquaient, silence, les repas devant la télé, Nicole la sœur, muette aussi, l'œil mauvais, histoire sans parole. Le dégoût que c'était de se lever le matin dans le noir et le froid pour traire avec ses deux têtes d'épouvantail qui allaient et venaient dans l'étable, sans le voir comme s'il avait été transparent. Alors que à eux trois hommes en bonne santé, sans compter Nicole pour s'occuper des petits veaux, ils auraient pu s'organiser par exemple, faire un roulement pour ne pas se lever tous les jours, à des heures impossibles, surtout l'hiver. On avait surmonté le conflit, c'était normal entre les vieux et les jeunes. Ce temps était fini, on s'arrangeait mieux maintenant, ils avaient compris, à plus de 80 ans, ils faisaient encore bien leur train, avec quelques moutons, les volailles, les lapins, le jardin. Ça leur suffisait, ils ne donnaient pas peine, ils n'étaient pas pénibles, comme sont certains vieux parfois qui ont des manies. Ils s'étaient encore lancés, ça lui échappait, les paroles venaient d'elles-mêmes, ils s'étaient ébroués, levés, avaient dit qu'il ne pleuvait plus et qu'ils devraient sortir avant la nuit. Histoire de voir un peu la ville et la Loire qui passaient là, elle avait été d'accord, il avait payé les chocolats. Plus tard, dans la voiture, entre Clermont et Condat, quand les noms sur les pancartes redeviendraient familiers, Champette, Besse, Église Neuve, il démontrait, les repasserait tout dans sa tête. Cette femme avait été là pour lui, était venue, avait franchi pour lui cette distance effarante sur la carte. Dès le premier appel, au téléphone, après les paroles du début, poussive, embarrassée, il avait cherché Bailleul sur une vieille carte Michelin qui traînait dans le buffet. Bailleul, nord, au bout du bout, là-haut, aussi loin qu'il était possible, avec quelque chose de découragé et de perdu dans cet enchevêtrement de lignes nouées sur la carte aux lisières extrêmes de la Belgique. Cette femme vivait là-bas avec ce fils de 10 ans. Cette femme, la femme qui avait répondu, avait une bonne voix, lente et claire, douce. Paul insisterait. Il s'appliquerait, il ne finirait pas comme tant d'autres qu'il connaissait, effaré dans le rond de la lampe et au bord de la télévision. Il ne se laisserait pas faire, il ne croupirait pas là, à Fridières, dans la maison confortable des oncles, avec Nicole qui était la sœur. Il ne savait pas, ne saurait pas, ne tenait pas à savoir si Nicole aurait un homme. Il laissait les gens parler ou rire grassement au café, et ailleurs, il voyait que Nicole attendait, ou qu'elle avait pleuré, ou que la terre ne la portait plus, fébrile et incendiée. Mais Nicole était sa sœur, comme lui l'abandonnait. C'était ce mot, abandonné, qu'il avait ruminé si longtemps dans la grosse rage de la jeunesse, sans savoir comment desserrer l'étau. Il ne comprenait pas d'où lui venait ce mot énorme, il n'en voulait à personne, il n'aurait rien pu dire, mais à 40 ans il s'était réveillé, calme et résolu, résolu à cela seulement, il aurait une femme à Fridières, une femme avec lui, à son côté pour les jours et les nuits pour vivre et durer. Il était Paul, on ne l'empêcherait pas, on les autres, personne ne l'empêcherait. Cette femme, Annette de Bailleul, du Nord, écoutait, elle était pour lui. Il l'avait senti aussi de cette façon qu'elle avait eue de se tenir sans parole devant la Loire grise, dans le froid de novembre, dans cette morsure d'avant la nuit, sur elle, autour d'elle, et de sa veste en laine rouge qui trouait l'ombre montante. Il avait reconnu son odeur happée d'abord, 3 heures plus tôt, sur le quai de, à la descente du train, une odeur un peu lasse et presque sucrée, comme déjà familière, apprise et apprivoisée. On disait la pièce pour la grande salle que Paul avait disputée à la grange haute depuis toujours dévolue au foin, à la paille, au regain, aux outils de bois et de fer, aux engins, aux entassements hétéroclites et patrimoniaux de rien qui pourraient toujours servir, avait servi, ne servait plus, mais prendrait de la valeur. La grange était saine, le bois n'y pourrissait pas, les métaux ne s'y corrompaient pas. La grange était parcourue de vents cathartiques et d'hirondelles enivrées, de fragrances définitives et de touffeurs estivales. La grange coiffait la maison des décors, couvrait bêtes et gens, pesait sur eux, puissante altière incorruptible. La grange était vaisseau, cathédrale, carapace mue obscurément, parcourue de craquements intestins, objet des soins constants du couvreur supplié. On ne trahissait pas la grange, et elle ne vous trahissait pas. Une grange effondrée, à bout, défaite, éventrée par les hivers et les arbres, comme on en avait beaucoup vu, comme on en voyait encore dans les pays hauts et perdus, une grange morte, était une plaie honteuse. Paul vivrait dans la grange tutélaire, il avait taillé dans sa lumière, tranché l'espace sous ses nervures de bois roux, monté les murs de parpaings grumeleux, et ménagé une porte intérieure qui lui permettait d'accéder au théâtre de ses quotidiennes opérations, sans passer par le territoire des oncles et de la sœur. Paul aimait la pièce, sa pièce, où l'on posait le corps recrue après le gros travail. où l'on mangeait les vivets, où l'on était à soi, à l'évier de la cuisine devant la fenêtre du fond, il lavait ses mains au savon de Marseille, les triturait, les malaxait, les briquait sous l'eau chaude, comme si elles eussent été d'une chair autre que la sienne, avant de les essuyer avec des égards minutieux, usant pour ce faire d'une serviette râpeuse réservée.